Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Quelle est la meilleure manière, la plus adaptée, d'ajouter de la poésie au monde, de défendre la beauté dans une société en train de couler? Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Corinne Morel-Darleux. À l'occasion de la publication de son ouvrage « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins » aux éditions Libertalia. C'est parti. Bonsoir Corinne.
Bonsoir.
Bienvenue à la librairie, à l'occasion de la publication de ce que moi je vais appeler ton second opus, de cette suite de pensées plutôt revigorante, qui s'appelle donc « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins », puisque j'ai dit que c'était le deuxième, je vais citer le premier. Donc c'était « Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, réflexion sur l'effondrement », toujours chez nos super amis de chez Libertalia. Donc bravo pour ces deux livres, qui sont, il faut quand même l'avouer, très courts.
Oui.
Mais quel monde ! C'est-à-dire que c'est 100 pages et 150 pages qui, moi j'ai eu l'impression, en contenaient 10 000. Donc merci beaucoup pour ça, mais quelle écriture !
Bah, merci beaucoup pour ce retour. En plus, je suis assez... Enfin, ça me fait toujours plaisir d'entendre ça parce que moi j'étais plutôt complexée par mon incapacité à déléguer. Et le fait justement d'avoir une écriture très condensée comme ça, j'ai toujours l'impression qu'il faudrait davantage rajouter, développer des idées, donner plus d'exemples. Et en fait, peut-être que finalement le fait de rester un peu à l'os comme ça et d'aller à l'essentiel, d'abord c'est aussi ce qui permet d'avoir un format qui reste accessible, et ça c'est très important pour nous, pour les éditions Libertalia et pour moi, d'avoir un format qui soit pas qui soit ni intimidant par sa taille, ni rébarbatif par son prix. Et donc c'est une sorte effectivement de condensé de pensée, on va dire.
Mais c'est-à-dire que en plus avec ces deux fabuleux titres, tu nous mets sur la voie d'une certaine poésie, de quelque chose, d'un cheminement, d'une navigation, d'un filoutage. Enfin, on va pouvoir en fait décliner tout ce chemin de pensée avec un vocabulaire de plus en plus fou et merveilleux. Mais parce que je pense, et c'est peut-être là l'endroit et la belle originalité de ton livre, c'est que en fait, on en parle comme d'un essai. Mais en vrai, c'est bien plus que ça. Et c'est rien qu'en disant ça, je dis déjà beaucoup du contenu de ton livre et de ta pensée politique. Et cet endroit-là, en fait, de se dire que par les mots et par la façon dont on présente ses pensées, on peut déjà, en fait, influencer d'une manière politique la vie de la personne qui lit, c'est quelque chose qui n'est pas si courant que ça, en fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir un essai, comme tu disais, avec des choses, des tables des matières, des idées développées, etc. Mais on peut aussi faire confiance, en fait, à quelque chose de l'intuition. Hein. Je pense que tu le dis même dans un de tes deux livres, le livre des intuitions. C'est-à-dire, en fait, le chemin, il va se faire. Ça va arriver et je vais vous mettre sur la voie de tout ce que j'ai dans ma tête, quoi. C'était un peu ça.
Oui, d'abord, c'est des choses très prosaïques. C'est que moi-même, en tant que lectrice, j'ai beaucoup de mal avec la plupart des essais académiques, universitaires, que je trouve assez arides. Par ailleurs, moi-même, je n'ai pas une formation universitaire. J'ai pas fait d'études de sociologie ou d'anthropologie ou de sciences politiques. Et donc, en fait, j'ai pas ces codes-là. Et je crois que quand on écrit, on essaye aussi d'écrire des choses qu'on aurait envie de lire. Et moi, j'ai plutôt envie de lire des choses qui me laissent de la place en tant que lectrice et qui sont aussi chargées d'une dose de sensibilité qui, d'une certaine manière, aide à faire passer la pilule de l'intellect et de la théorie, quoi. Je trouve qu'on a besoin des deux, mais parce qu'on est fait comme ça, en fait. Aucun d'entre nous n'est fait juste d'un cerveau sur deux jambes, quoi. Et donc, c'est l'idée aussi, de d'une forme de sincérité, je crois, tout simplement, en fait, de ne pas se cacher derrière des références ou des grandes théories abstraites, mais de livrer le fruit de ses réflexions. Et le fruit de ses réflexions, il passe aussi par, par du sensoriel, par de l'émotion, par des moments de vie, par des expériences qu'on éprouve, par de l'affect. Et peut-être que c'est aussi ça qui fait que davantage de personnes, à un moment donné, peuvent se projeter, se retrouver dans les mots qu'on pose à un moment donné. Et c'est toujours assez fascinant et assez magique, d'ailleurs, de voir à quel point, en posant des mots qui, quand on les écrit, semblent très personnels, on voit à quel point ça peut finalement très, très largement déborder le personnel et aller toucher plein de personnes et plein de personnes relativement différentes. Ça, c'est aussi une belle surprise. Pas uniquement les personnes qui vous ressemblent, mais aussi des personnes qui ne vous ressemblent pas, qui n'ont pas le même vécu commun, qui n'ont pas les mêmes conditions matérielles d'existence, qui n'ont pas les mêmes trajectoires politiques et militantes, mais qui, justement, vont se retrouver parce qu'il n'y a pas uniquement un discours idéologique, mais il y a aussi quelque chose d'humain, et je crois que c'est ce quelque chose d'humain qui, à un moment donné, peut aussi nous rassembler.
Mmh. Mais c'est tout... la singularité, en fait, de la construction de tes livres, c'est l'articulation, en fait, entre ce que tu es en train de vivre pendant que tu écris, entre ce que tu lis qui va t'émouvoir, te bousculer, ce que tu essayes de prévoir aussi, d'une certaine vision du futur, de l'anticipation de ce qui est à venir, que ce soit catastrophique ou extrêmement beau. Tant est que le catastrophique ne puisse pas être beau, ça, c'est encore une fois être plein de portes qui s'ouvrent en fait au fur et à mesure. Et je pense que ce qui m'a vraiment touchée, c'est de me dire qu'en fait j'étais autant en train de lire un sujet que de découvrir une forme qui m'amenait à comprendre ce sujet. C'est-à-dire que puisque tu nous balades, et c'est vraiment tous ces termes sont hyper très bien choisis, c'est-à-dire que tu nous balades entre différents endroits de narration qui font qu'on comprend comment l'articuler avec tes théories politiques, en fait. Et ça, ben c'est rare, en fait, d'avoir cet endroit-là aussi efficace. Et ce mot, pour le coup, est peut-être beaucoup moins poétique, au final. Mais on aurait envie, en fait, et vraiment, et c'est un des gros endroits de ce second livre, qu'on nous parle politique comme ça. En fait, et tout ce que tu viens de dire de l'affect, du sens, ben c'est tout ce que tu essayes de réinjecter et te dis, mais en fait, tant que les personnes ne seront pas touchées en leur affect, en leur sens, ben on restera toujours sur un discours désincarné, déserté, ce sont tes mots. Et donc, comment être impliqué dans ces moments-là, en fait, on se sent tout de suite en distance.
Bah ça, c'est aussi, effectivement, je pense que j'aurais pas forcément écrit les mêmes choses si j'avais commencé à écrire à 30 ans plutôt qu'aujourd'hui. C'est aussi le fruit de tout un parcours, de toute une expérience. Moi, je me suis beaucoup engagée en politique, dans des voies assez traditionnelles, de militantisme partidaire, des institutions. J'ai été élue. Et donc, c'est aussi le fruit de cet apprentissage, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, force est de constater que tendre des tracts et faire des grands discours avec plein de mots en isme, bah, si ça suffisait, on n'en serait pas là, quoi. Donc, bon, d'une part, il y a ça. Et puis, d'autre part, il y a aussi que moi, toutes ces années-là m'ont surtout raffermi dans l'idée que surtout en politique, le fond et la forme ne peuvent pas être dissociés, en fait. Et que c'est pour moi une condition sine qua non, une question d'éthique politique, c'est de ne pas dissocier les deux, quoi. Et donc, pour moi, ne pas dissocier le fond et la forme, c'est précisément ce que tu viens de dire là, quoi. C'est de mêler différents registres à différents discours, à différents propos, à différentes idées. Et c'est clair qu'il y a des sujets que je ne peux pas aborder de manière froide et calculée, parce que c'est quand on parle de chaos climatique, quand on parle d'extinction de la biodiversité, quand on parle d'injustice sociale, quand on parle de tous ces sujets-là, En fait, je conçois même pas qu'on puisse le faire de manière froide et calculée et désincarnée. Comment garder de la distance avec des sujets pareils ? Parce qu'on est touché aussi en tant qu'autrice par ces sujets-là. Et donc, ça me semble très compliqué en fait, de les aborder sans y mettre une implication personnelle qui, pour moi, ne doit pas prendre le pas sur le propos politique, mais l'accompagner, le soutenir, l'appuyer, l'incarner, venir lui donner des couleurs, une vibration. Et ça, je crois que... Enfin, voilà, en même temps, je dis tout ça comme si c'était hyper théorisé dans ma tête. En réalité, tout ça est venu de manière très naturelle. C'est plutôt a posteriori que j'y trouve ces explications un peu rationnelles. Mais la réalité, c'est surtout que je suis incapable de faire un plan, que j'ai pas du tout cette habitude. Enfin, voilà, moi, j'ai pas été formée à rédiger des essais. Et donc, en fait, c'est venu comme c'est venu et c'est venu sous cette forme-là. La première fois, et c'est revenu sous cette forme-là, la seconde, sans que ce soit là non plus prémédité. Je ne me suis pas dit « Ah, je vais essayer de refaire la même chose, en fait ». J'ai d'ailleurs tourné très longtemps autour de cette idée d'un second essai. Je suis passée par la fiction entre-temps. J'ai essayé de faire des plans. Tout ça me bloquait totalement. Et puis finalement, une fois de plus, c'est le moment où j'ai lâché cette idée de rigueur et de structuration et de hiérarchie des idées. C'est ce moment-là, en fait, qui a débloqué l'écriture.
Mais dans... C'est marrant que tu dises directement, en fait, tu es passée par la fiction avant d'arriver sur ce deuxième livre. Et en fait, je me disais, c'était évident qu'il fallait passer par la fiction avant d'arriver sur celui-là. Il fallait l'éprouver, en fait, cet endroit-là, en fait, de créer complètement une autre narration encore que ce que tu avais pu faire auparavant. Parce que tout ce deuxième livre, et je vais arrêter de dire deuxième, ce livre, il est tout seul, il est bien tout seul aussi. Alors nous irons trouver la beauté ailleurs. En fait, et tu vas beaucoup parler de ça, de cet endroit de la fiction comme endroit révolutionnaire, ou en tout cas, et tu as cette phrase géniale. Alors peut-être que parfois je vais faire des ping-pong entre les deux, et je vais dire que tu l'as écrit dans l'un ou dans l'autre, mais en tout cas, c'est cette phrase où tu dis « La résistance a besoin d'une culture de la résistance, mais de la culture comme de ses imaginaires, de ses écritures, de ses films, etc. » Et donc, je ne peux pas m'empêcher de penser que tu t'étais mise sur la voie de ce livre par ton roman, en fait, tout simplement, pour pouvoir l'écrire avant de le théoriser, peut-être.
Oui, je pense que, d'abord, moi, ça me va bien d'avoir ces va-et-vient entre l'essai et la fiction, parce que là aussi, en fait, on a besoin des deux, et que ce soit en tant que lectrice ou en tant qu'autrice, en fait, la fiction, c'est aussi des moments d'incroyable liberté où tout est possible, où on n'est plus assujetti à une forme de rectitude et d'exigence et d'honnêteté de la pensée. En fiction, on peut faire ce qu'on veut, on peut mentir, on peut divaguer, extravaguer. Au contraire, c'est même plutôt bienvenu en général. Et donc, voilà, moi j'ai besoin de ces va-et-vient, et je crois que je m'assécherais en fait si je n'écrivais que sur le réel et que sur le monde qui nous entoure. J'ai besoin aussi d'aller de temps en temps gambader dans d'autres univers qui n'existent pas ou qui n'existent pas encore. Et effectivement, le fait d'avoir touché à cet incroyable plaisir de la fiction m'a probablement réalimenté et redonné des billes sur la place qu'on donne à cette question de l'imaginaire et du récit aujourd'hui en politique, qui est devenue un peu une tarte à la crème, notamment dans les milieux de l'écologie politique et plus largement. Je dis tarte à la crème parce que à mon avis, c'est quelque chose de nécessaire. On a besoin de récits, on a besoin de nouvelles formes narratives, on a besoin de nourrir notre imaginaire d'autre chose que... De drones, de Robocop, de surveillance et tout ça. Mais en même temps, c'est vraiment une condition nécessaire mais non suffisante. Et je ne voudrais pas non plus laisser penser que le fait d'inventer de nouveaux récits, de nouveaux imaginaires, de nouveaux horizons désirables suffirait à les faire advenir. Et donc, pour moi, c'est des choses qui s'articulent toujours avec la question de l'engagement collectif, avec la question de la résistance, avec, la question de comment on construit dès aujourd'hui, sans attendre, des alternatives qui préfigurent le monde dans lequel on voudrait vivre. Enfin, voilà, pour moi, en fait, ça ne peut que s'articuler avec un propos politique. Et donc, voilà, je pense que les deux s'alimentent en permanence. En tout cas, pour moi, c'est comme ça que ça fonctionne.
Mais il y a un endroit dans ton récit où vraiment, en fait, tu fais penser à cette idée que, ben, en fait, si on ne connaît pas les choses, on ne les défend pas. Si on n'apprend pas à les aimer, on ne va pas avoir envie de les défendre. Et ça m'a fait penser à un moment qu'on a vécu ici magnifique avec Alice Zeniter, que tu cites également, lorsqu'elle est venue pour son roman, enfin son livre « Toute une moitié du monde », où en fait, elle nous a vraiment dit ça. Elle nous a dit « Mais qui a envie de défendre des fonds marins quand ils n'existent dans aucun livre, en fait, quand on ne les a jamais visualisés dans notre imagination ?» Et de la voir, enfin, de vous voir vous répondre d'une certaine manière dans ton livre m'a beaucoup touchée parce que ça avait créé quelque chose chez moi, je ne l'avais jamais pensé. Je me suis jamais dit que si on ne défend pas telle espèce microscopique, c'est parce qu'on n'en a jamais entendu parler, donc on ne sait même pas qu'elle est en train de disparaître, évidemment, mais qu'on ne sait même pas qu'elle a vécu. Et c'est plein d'endroits où, en fait, on se dit... Mais donc, de ce fait, ces nouveaux imaginaires, comme tu dis, ce nouvel ordre imaginaire, ben c'est de nous donner ces fameuses billes pour après les défendre. C'est-à-dire que c'est limite si ça doit être le premier pas, doit quand même être dans la fiction, les romans, la poésie, les films, toutes ces narrations qu'on se construit, pour qu'ensuite on soit des bataillons de défense de ces endroits qui risqueraient de disparaître, en fait. Mais j'aime beaucoup quand même cette idée que la fiction soit d'abord là, pour épauler les luttes. Cet ordre-là, il n'est pas toujours dans cet ordre-là, en fait, en vrai.
Alors, je ne dirais pas forcément qu'elle est toujours là pour ça. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'autrices et d'auteurs dits engagés qui fustigent la littérature de divertissement, de loisirs, etc. Moi, c'est vraiment pas mon cas. Je dois trop à ce qu'on appelle des romans de gare qui m'ont vraiment épargné. Enfin, voilà, auxquels je me suis souvent raccrochée. J'ai trop besoin aussi de ces romans qui sont peut-être pas les romans qui vont le plus vous rester en tête, mais qui vous permettent de vous échapper pendant quelques heures parce que vous êtes juste en train de tourner les pages et que c'est passionnant. Et peu importe d'une certaine manière si 6 mois après on les a oubliés, parce que le moment où on en avait besoin, ils étaient là. Et donc voilà, moi je tiens aussi quand même à cette fonction aussi d'évasion du roman. Je crois qu'elle a toujours été importante, et je crois qu'elle est plus que jamais nécessaire aujourd'hui. On a aussi besoin de romans qui juste nous emmènent ailleurs, le temps de reprendre son souffle. Après, bien entendu, si ça peut en plus apporter des bougies en soi, si ça peut venir décadrer le regard, hein, si ça peut venir donner d'autres perspectives. Et c'est vrai que en cela, la littérature de fiction est extrêmement puissante quand elle est réussie, parce que quand on a passé 300 pages avec des personnages dans la forêt tropicale, on en ressort avec un regard qui est plus tout à fait le même. Quand on a passé 250 pages avec des personnes en milieu carcéral, on en ressort avec un regard qui, là aussi, est décadré. Et c'est là où, effectivement, on rejoint ce que tu mentionnais à l'instant, c'est le fait que effectivement, on ne défend bien que ce qu'on a appris à aimer. Et les personnages de fiction sont là pour ça. Parce qu'on s'attache à eux, parce qu'on vit des choses avec eux qui ont vraiment la matière de la réalité quand c'est réussi. Et donc après, ça décale le regard. Et y a, plein de romans, je trouve, quand on les referme, on se dit, bah, je ne pourrai plus jamais regarder, je ne sais pas, un chien, un arbre, de la même manière. Parce que tout d'un coup, ils étaient des personnages de romans et que tout d'un coup, on a appris à ressentir à travers eux. Donc oui, je crois que la fiction, elle a un rôle là à jouer qu'on ne trouve pas ailleurs, en fait. Un essai, il peut y avoir des idées qui viennent vous percuter, mais ça ne vient pas ébranler au même endroit, quoi.
Mais d'autant qu'on parle beaucoup, en fait, de représentation ces dernières années, par les engagements féministes notamment. Et c'est vrai que quand on réfléchit bien à ce qu'on lit, en général, on va souvent, en fait, féliciter des victoires d'une seule personne, d'une personne par rapport à un groupe. Et évidemment, on l'a entendu dans ton engagement politique, cette voix du commun, du collectif, ben, on a envie que ça change aussi à ce niveau-là. C'est-à-dire que la fiction se transforme et cesse d'être une valorisation du dominant, de celui qui réussit en écrasant les autres, ou qui sauve toute la planète de ses petits muscles, enfin, généralement de ses gros muscles, mais... Et ce petit endroit-là, ça paraît peut-être tout petit, mais ça va être vraiment à l'image de tous tes livres, en fait. C'est de montrer que c'est par les petits endroits, les petits interstices, les petits bousculements, qu'on peut vraiment tout changer. Parce que si on a pris l'habitude de lire des livres où en collectif, on sauve d'autres collectifs, par exemple, ben c'est pas la même chose que si c'est un homme qui sauve une planète.
Oui, la question, c'est effectivement de quoi on nourrit nos imaginaires. Et c'est vrai que aujourd'hui, si on prend uniquement ce qui nous est livré par le système marchand et le système dominant, ça vient nourrir l'existant, en fait. Ça ne le déplace pas beaucoup. Donc, naturellement, qu'il y a des choses à inventer pour venir bousculer même les codes du roman. Mais je dis roman, je pourrais dire film, je pourrais dire série, les codes de la pop culture en général, en fait. Et donc, effectivement, aller plutôt vers toutes ces figures dont on parle peu, qu'elles soient collectives ou individuelles d'ailleurs, hein, ou les espèces, effectivement, dont personne n'a jamais parlé dans des romans, je pense que ça peut que contribuer. Après, je ne suis pas sûre, par contre, que la somme de ces petits bousculements soient vraiment en mesure de tout changer. Mais j'ai l'impression que, vu là où on en est, tout ce qui change, même un peu, est bon à prendre.
Oui, c'est ça. Mais c'est marrant, je ne me serais pas doutée que tu dises ça, que ça pourrait peut-être pas changer. Et c'est ce qui, en effet, dans le livre, de temps en temps, j'ai l'impression que tu vas dire quelque chose. Et puis, en fait, tu n'es même pas sûre avec toi-même d'un chapitre à l'autre. Mais c'est génial. Enfin, il y a quelque chose d'une vraie sincérité de ce fait. Mais je me dis, enfin, pour moi, en tant que libraire, et en plus ici, pour moi, la littérature changera le monde. Les fictions changeront. Enfin, tu vois, je suis sûre. Enfin, la narration changera le monde. Mais si je n'y croyais pas, je ne serais plus là, quoi. Je veux dire, je serais autre chose. Mais de se dire que de ce fait, tu nous donnes, en fait, toute cette matière à penser sur la fiction, etc. Et pour autant, tu te dis, mais ce sera peut-être pas suffisant pour tout changer. Peut-être que tu ne vois pas assez grand sur ton texte, en fait. C'est vraiment, moi, quand je le lis, j'ai vraiment l'impression que c'est possible. Enfin, en tout cas, tu nous transmets ça dans tous tes exemples. En plus, tu vas citer énormément d'autrices, beaucoup de livres que tu as lus, des choses qui t'ont marqué. Donc, on sent bien quand même qu'il y a quelque chose qui bouge en toi grâce à la littérature.
Mais je pense que ça fait bouger des choses. Je pense que la littérature, au sens large du terme, embellit le monde. Je pense qu'elle a le pouvoir de venir vraiment percuter des personnes et même de créer des changements d'ambiance collective. Mm-hmm. Ça, j'en suis persuadée. Après, j'essaye de rester très lucide sur les objectifs aussi qu'on peut assigner à la littérature. Et j'ai du mal à penser qu'écrire un livre puisse être vraiment empli totalement d'objectifs révolutionnaires. Je pense que c'est empli de plein d'objectifs et que ça peut faire plein de choses. Mais comme je le disais tout à l'heure, s'il n'y a pas à côté de ça des actes concrets, matériels, de résistance, d'activisme, des actes concrets, matériels, de poser dès maintenant d'autres manières de vivre et de montrer que c'est possible de vivre autrement, alors la littérature ne suffira pas. Je crois pas qu'elle suffise. Je crois que c'est une alliée. Je crois que c'est peut-être une accélératrice de bascule, de trajectoire. Mais voilà, j'essaye de rester, rester lucide et modeste par rapport à ce que ça peut vraiment provoquer dans la société actuelle.
Mmh. Mais c'est peut-être aussi une question d'échelle. En fait, il y a ce qu'on vit. Quelle est notre relation avec ce livre, cette histoire, et ensuite ce que ça va procurer au monde, c'est plein de petits ricochets, en fait, au final, c'est tout à fait ça. Mais, parce que là, de ce fait, on a beaucoup déjà parlé de littérature, mais tes livres sont très engagés. Enfin, on est quand même sur des pensées autour de l'effondrement, autour tu parles du fameux statut du payeur-consommateur, de comment, en fait, on agit au monde dans un système, qu'on nous met sur la voie, en fait, d'être, avant même de penser qui on va être. On achète, on gagne de l'argent, mais on perd, en fait, au final, peut-être ce que c'est que de vivre dans cette société et de se questionner sur la façon dont on voudrait vivre. Donc tout ça, en fait, ça fait aussi partie de ton livre, c'est-à-dire que tu nous emmènes dans plein d'endroits différents, mais il y a quand même une structure qui parle de militantisme. Et j'ai beaucoup aimé quand tu nous... Il y a trois concepts importants qui vont être développés ou qui vont toujours ressurgir comme ça. C'est la joie militante, le romantisme révolutionnaire et la gentillesse punk. Je me suis dit, mais c'est vrai qu'avec ça, ben là... La politique, elle changerait complètement, en fait. Mais la politique comme l'endroit du commun, quoi. Super, ces trois concepts.
Oui, bah, après, c'est pas des concepts que j'ai inventés, moi. Hein. Peut-être la gentillesse punk, je suis pas sûre qu'elle soit beaucoup sortie avant.
C'est mais, ça, je l'avais pas lu, celle-là.
mais le romantisme révolutionnaire, par exemple, est un courant politique qui a existé, qui a ses autrices et ses auteurs, mm-hmm. qui a eu ses actrices et ses acteurs, mais qui est un peu tombé en désuétude. Et là, il s'agit plutôt d'essayer de le réhabiliter. Non pas... Enfin, voilà, il faut pas entendre le romantisme révolutionnaire comme ce pâle reflet qu'on imagine aujourd'hui quand on prononce ces deux mots, qui consisterait à se bercer de gentilles et douces utopies sur le fait qu'un jour la révolution arrivera et qu'on vivra toutes heureuses. C'est pas ça le romantisme révolutionnaire, c'est vraiment là aussi une manière d'être au monde et d'être à la chose politique. Qui est à rebours, me semble-t-il, en tout cas, d'une certaine vision très soldatesque de la politique, et d'accepter en fait que une forme de mélancolie, une forme de sensibilité, une forme de revendication, de poésie et de beauté n'enlève rien à la radicalité. D'une posture politique, tout au contraire. Et c'est vrai que je m'appuie beaucoup dans ce livre sur la figure de Rosa Luxembourg, qui est vraiment alors l'amie et l'alliée parfaite pour ça, puisque Rosa Luxembourg, qui est vraiment une militante au-delà de tout soupçon, que personne ne peut imaginer tiédasse ou fade, dans ses lettres de prison notamment, passe son temps alors que elle est dans un contexte à la fois personnel et collectif d'incarcération, de conflits armés, de guerre, et malgré ça elle continue à regarder la forme des nuages dans le ciel, à regarder les bourgeons s'épanouir. Elle continue à se préoccuper du sort d'une coccinelle gelée. Et en fait, ça ne retire absolument rien à sa stature de militante, à ses idées justement radicales et révolutionnaires. Et donc, voilà, je m'appuie beaucoup, je convoque beaucoup Rosa Luxembourg, même en dehors du livre, quand moi-même j'ai des moments de doute, parce que je trouve que voilà, elle nous autorise. Et je crois que de temps en temps, c'est bien de s'autoriser quand ça va dans le sens de s'autoriser à ressentir des choses et à les exprimer et à ne pas en avoir honte.
Mmh. Oui, tu dis même, enfin, il y a un extrait que tu cites où elle dit tout prendre avec légèreté et bonne humeur. Je l'ai retenu parce que je me suis dit que c'était une bonne...
C'est un bon mantra.
C'est un bon mantra.
Il n'est pas facile à tenir en ce moment, mais...
Non, mais il faut s'y accrocher. Mais c'est tout comme tu cites aussi Emma Goldman, dans C'est la Révolution. Mais en fait, il y a plein d'endroits comme ça. Il y a le titre, tu vas peut-être pouvoir m'aider, celui-là je ne l'ai pas retenu, mais de Ursula Le Guin. Je ne sais plus comment il s'articule, où elle parle aussi de danser le monde.
Oui, c'est le titre de son recueil de textes traduit par Hélène Colomb qui s'appelle Danser au bord du monde.
Ben voilà. En fait, en effet, il y a des penseuses qui nous mettent sur la voie en fait, de ces registres à combiner. En fait. Et c'est vrai que dans ton premier ouvrage, plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, tu vas beaucoup parler du refus de parvenir. Et c'est vrai que toute cette arrivée dans ton écriture sur cette histoire bah, va être cet endroit-là, en fait, de dire qu'il y aurait pu avoir une fin à une histoire, bon là pour le coup réel, hein, mais il y aurait pu avoir une fin complètement... blockbusteresque avec voilà, il gagne la coupe, il gagne l'argent, il a la renommée, etc. Et en fait, il choisit son émotion, la beauté, et il va faire une autre fin de sa vie, en fait. Est-ce que tu peux nous parler de ce refus de parvenir?
Oui, c'est dans Plutôt couler en beauté que flotter sans grâce, le livre s'ouvre sur ce personnage réel, donc, hein, de Bernard Moitessier, qui est un navigateur qui a participé il y a un peu plus de 50 ans à la première course autour du monde à la voile, en solitaire, sans escale et sans assistance extérieure, et qui, alors qu'il était en passe de remporter la victoire, après avoir longuement délibéré avec lui-même, a décidé finalement de ne pas franchir la ligne d'arrivée, de ne pas remporter donc la course et de changer de cap. Et c'est donc ce qu'il a fait effectivement pour aller s'installer dans le Pacifique. Et à l'époque, ça avait fait grand bruit parce que en fait, il était déjà attendu en vainqueur. Les journalistes étaient déjà sur le pied de guerre pour l'interviewer. Et en fait, lui explique après ce geste, ce choix, en disant qu'en fait, il n'avait juste pas envie de rentrer dans un pays gangréné par l'argent, qu'il n'avait aucune envie de parler aux journalistes et que, en fait, pendant ce tour du monde, il s'était rendu compte qu'il était heureux en mer. Il avait juste envie de continuer, quoi. Et donc, ça avait fait grand bruit. Et quand je suis retombée sur cette histoire, elle m'a semblé encore plus à contre-courant 50 ans plus tard. Moi, j'adorerais, en fait, aujourd'hui, qu'on ait comme ça des grandes sportives qui décident que, bah non, finalement, juste avant la ligne d'arrivée, on va s'asseoir par terre, on va faire un pas de côté, on va aller s'allonger dans l'herbe. Je trouve que parce que c'est des moments en fait qui surprennent et qui donc décalent aussi. Enfin, il y a cette question aussi de la surprise, quoi. C'est que tout d'un coup, en fait, les choses se passent pas comme elles étaient prévues, comme elles étaient planifiées et comme les injonctions sociales nous les présentent. Et donc voilà, j'avais envie de tirer ce fil de ce geste de Bernard Moitessier et de le rapprocher de ce concept du refus de parvenir, qui est un concept libertaire qui a été formulé au début du XXe siècle et qui n'avait pas été, il me semblait, suffisamment développé. Et voilà, j'avais l'intuition, en tout cas, que ça pouvait nous donner des pistes intéressantes à réfléchir aujourd'hui, au XXIe siècle.
Mmh. Oui, et je trouve que la discussion entre toutes les personnes que tu convoques dans ces deux livres sont hyper intéressantes. Parce que si on met son action, ce fait de dévier, moi j'ai l'impression qu'il a, voilà, il a vraiment, il est passé à côté d'un gros obstacle et pour revoir la lumière, etc. Goldman et de la danse ou de Ursula Le Guin, de la bonne humeur de Luxembourg. En fait, tout ça, en fait, ça parle ensemble de ces petits, de ces décisions qui nous rendent notre agentivité aussi en tant que personne individuelle, mais en tant que peuple. Parce que ce qui va être très intéressant dans cette articulation-là, alors sur l'effondrement dans le premier livre et aussi sur le lien, alors tu parles par exemple des gilets jaunes, tu parles de la réforme des retraites, enfin tu vas parler des actualités dans tes livres, mais de montrer qu'on doit reprendre la main en fait en étant plus actif, active de nos décisions, de nos vies, ben ça passe par ces exemples-là. De montrer en fait que des grandes figures autour de nous ont eu la main sur leur vie en la regardant différemment, en allant sur un autre chemin, c'est une façon de nous tendre aussi la perche, de nous dire on est capable, nous en fait, d'avoir ce petit pas, cet interstice, ce petit mouvement, voilà, se remettre en mouvement. Je pense que c'est exactement ça en plus que tu dis.
Oui, c'est vraiment l'idée. Moi, de manière générale, j'ai vraiment arrêté de dire aux gens ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils devaient penser. Ça, c'est déjà la base, parce que ça marche pas, en fait. Et donc, à chaque fois, l'idée est plutôt de susciter, en fait, des doutes, des interrogations, des envies, des élans. Et donc, d'essayer de nourrir ça de plein de manières différentes. Parce que on n'est pas toutes faites de la même manière et que donc certaines personnes vont être très marquées par l'exemple de Bernard Moitessier et d'autres vont être davantage touchées par un des romans que je cite par exemple là je cite Le Pays des Marais d'Amitav Ghosh par exemple enfin et donc l'idée c'est vraiment de venir donner plein de nourriture sans préjuger de ce qui va fonctionner ou pas, et surtout sans donner de recettes, quoi. Enfin, je me souviens, pour le deuxième, j'ai eu un peu moins peur de ça, mais pour le premier, j'avais une hantise, hein, c'était d'écrire un manuel de développement personnel. C'était vraiment ma hantise. Là, c'est vraiment pas du tout ça l'idée, quoi. D'autant que j'insiste aussi toujours beaucoup là-dessus. On vit pas toutes et tous dans les mêmes conditions, quoi. Et donc, les capacités à faire des choix, à refuser des choses, naturellement, selon que vous êtes riche ou précaire, selon votre statut social, les possibilités, elles sont pas les mêmes, quoi. Et donc, les grands gestes un peu flamboyants je claque la porte, je démissionne, je change de vie... c'est pas accessible à tout le monde et puis tout le monde n'en a pas non plus forcément envie et moi j'ai pas du tout envie de rajouter une injonction supplémentaire à toutes les injonctions qu'on reçoit déjà, quoi. Ce serait complètement absurde et contre-productif. Donc l'idée est vraiment pas de dire il faut absolument bifurquer ou faire des pas de côté de telle ou telle manière, mais plus, comme tu le disais à l'instant, de se dire, en fait, il y a toujours des petits interstices où, effectivement, on peut reprendre la main, où on peut exercer son libre arbitre et faire des choix. Ils ne sont pas forcément très spectaculaires, mais en fait, peu importe. Parce que l'important, c'est de commencer à reprendre la main, effectivement. c'est vraiment la question de la puissance d'agir. Et l'exemple, je reprends l'exemple de Rosa Luxembourg, pour moi, qui est vraiment aussi très parlant de ce point de vue-là. Et tout le monde en a en tête, je pense, des exemples comme ça, notamment par le biais des livres. Mais c'est que même dans des situations qui paraissent très désespérées et très sombres, souvent, en fait, des personnes trouvent les ressources pour continuer à vivre, tout simplement, et à vivre, pas seulement à survivre, mais à vivre. Et ça, je trouve que ça passe vraiment par cette question du choix, quoi, de reprendre le choix. Et donc, même si c'est sur des choses infinitésimales qui n'ont pas une influence majeure ou un impact délirant, en fait, sur ses conditions de vie, eh ben, je continue à penser que c'est important parce que c'est aussi la question de la dignité de la personne, en fait. Une personne à qui on retire toute possibilité de choix, aussi minime soit-il, c'est une personne à qui on dénie toute dignité humaine, tout simplement.
Mmh. Et qui va être un de tes gros endroits aussi, la dignité du présent, dans le premier tome, jusqu'au bout, premier tome ou deuxième tome. On va devoir s'arrêter là, mais je souhaite vous laisser sur ce tu nous fais le cadeau de nous mettre la lettre anonyme à Rosa Luxembourg. Et elle se termine par un passage que j'ai trouvé très très beau, et donc ce sera mon souhait pour aujourd'hui. Je souhaite ardemment que vous soyez toujours fidèlement présente dans tous les délicieux printemps du monde.
Magnifique, merci beaucoup.
Merci beaucoup à toi, Corinne. Merci. Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de l'Affranchie Podcast en compagnie de Corinne Morel-Darleux. À l'occasion de la publication de son ouvrage « Alors nous irons trouver la beauté ailleurs, gymnastique des confins » aux éditions Libertalia. L'Affranchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec l'Affranchie Podcast.
Hey marketers, want a matchmaker to set you up with your perfect audience? Well, look no further. Get intimate right away with host-read sponsorships with Acast. Use Acast's self-serve ad platform to search and partner up with a podcaster or two from our network of more than 100,000 shows. Have them sing your praises in their own words. And get their listeners ready to be wooed into loyal customers. It's the ultimate loving endorsement. Book host-read sponsorships with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.